messager de la paix. Il est 7 heures. De 7 heures. Paul Bénédicte Bolou.
Il est 7 heures, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce jeudi 4 mai. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été décaissés pour l'exécution des projets du contrat de désendettement et de développement durant ces deux dernières années. L'information émane du Conseil des ministres atténué mercredi 3 mai à Abidjan Plateau. La quatrième édition de la semaine de la sécurité routière qui est consacrée à la sensibilisation de proximité a été lancée hier mercredi 3 mai à Abidjan pour le ministère des Transports. Les actions de sensibilisation seront axées sur les infractions récurrentes. Hors des frontières de la Côte d'Ivoire au Rwanda, dans la nuit de mardi à hier mercredi, les inondations ont causé la mort de 127 personnes dans plusieurs districts à l'intérieur du pays, selon le bilan provisoire des autorités. Et dans les dernières minutes de cette édition, juste après la page internationale et la revue des titres des quotidiens ivoiriens présentée par Jean-Claude Comé, vous suivrez l'intervention de l'invité de la rédaction, Dr Amouzou Landry, assistant en droit à l'université Péléforogon Koulibaly de Korogo, sur la loi qui permet à une personne d'être en même temps maire et ministre-gouverneur. Voilà pour l'essentiel. Conseil des ministres d'hier mercredi 3 mai, plusieurs mesures ont été prises ou étudiées par le gouvernement ivoirien. Le dit conseil a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Entre autres, le conseil a adopté une communication relative aux conclusions de la 9e édition de la revue sectorielle 2022 des projets du contrat de désendettement et de développement qui s'est déroulé du 13 au 16 mars dernier à Abidjan. Sur les détails de ce dossier, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly.
Cette revue relève au 31 décembre 2022 1213,69 milliards de francs CFA décaissés pour l'exécution des projets C2D sur 1341,46 milliards de francs remboursés, soit 90,87%. En 2022, spécifiquement, 101,79 milliards ont été décaissés contre 187,43 milliards de francs en 2021, dû à la phase de clôture des projets du premier et du deuxième C2D, l'instruction du troisième C2D. Toutefois, des projets de grande envergure ont été livrés. Il s'agit entre autres des cours d'appel de Daloa et de Korogo, du pont au Fouet-Boigny réhabilité, du centre de formation continue de l'INFJ à Abidjan, de 43 collèges de proximité, des lycées professionnels de Daoukro et de Yopougon. En outre, au titre du troisième C2D, pour un montant de 751 milliards de francs CFA, 238,90 milliards ont été engagés. L'année 2023 devrait marquer la fin de la mise en œuvre des projets des deux premiers C2D et la livraison de plusieurs ouvrages structurants dans les secteurs de l'assainissement, de la santé et de l'éducation.
Le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Élections locales en Côte d'Ivoire, quelques mois des scrutins municipaux et régionaux prévus le samedi 2 septembre 2023. Le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan a invité la jeunesse à œuvrer pour garantir un environnement électoral apaisé. Docteur Flan Moké-César au micro de Marcel Bonny.
Au moment où nous sommes à quelques mois des élections locales, municipales et régionales, l'appel donc que je voudrais lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est de faire en sorte de ne pas se laisser conduire par les entrepreneurs politiques, d'éviter tout ce qui va rentrer dans le sens de la fragilité en termes de fragilité à la construction de la nation ivoirienne. Éviter la violence électorale, rester courtois, comprendre que la compétition électorale fait partie du jeu démocratique et montrer qu'on est devenu mature et que les questions électorales ne peuvent pas être l'occasion d'instaurer ou bien de faire installer dans une région de la violence et tout ce que cela comporte. Pour ne pas que cette zone qui fait fait frontière également avec une zone dans laquelle le terrorisme est très très vivant, de ne pas donner l'occasion à ceux qui attendent les situations de désordre pour prospérer. Que la région du Poro soit une région où règne la paix et les différents fils de cette région qui vont s'affronter aux élections, que cela reste seulement une compétition électorale et que l'enjeu doit être tout simplement la paix de cette région et par ricochet la paix de la Côte d'Ivoire.
Flan Moké César, directeur du CERPA, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Réactivé en 2016 par décret présidentiel, l'Office du service civique national OSCN apparaît aujourd'hui comme un dispositif important dans la réussite du plan Marshall évoqué par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara dans son récent discours sur l'état de la nation. Et la direction du service national des jeunes est l'une des trois directions opérationnelles de l'OSCN qui a pour vocation principale le renforcement du comportement civique et citoyen de la jeunesse ivoirienne, souligné ici par son premier responsable, Ouattara Katolonian, qui révèle aussi les objectifs du programme jeunesse du gouvernement ivoirien de 2023 à 2025.
Le service national des jeunes a pour vocation le renforcement du comportement civique et citoyen de notre jeunesse en vue de faire en sorte qu'ils soient des acteurs du développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Le constat est que ces dernières années, nous avons constaté une montée de l'incivisme au niveau de notre jeunesse, ce qui fait suite aux différentes crises que nous avons connues, et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a estimé nécessaire de faire en sorte qu'à travers le programme du service civique en Côte d'Ivoire et particulièrement le service national des jeunes, nos jeunes soient renforcés en termes de comportement civique et citoyen pour dire qu'ils ne sont pas des tableaux noirs. Il y a de bonnes choses à leur niveau.
Et à ce jour, combien de jeunes ont pu donc bénéficier de ces séances de renforcement de capacités en matière de civisme?
Il faut dire que c'est depuis 2021 que nous avons démarré la mise en œuvre du service national des jeunes. Et à ce jour, c'est environ 2000 jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme du service national des jeunes. Et pour cette année, pour ce qui concerne le parcours citoyen, c'est 2000 jeunes élèves qui sont ciblés. Pour le campus, c'est 1000 jeunes qui sont ciblés, et ces activités s'inscrivent dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui vise à terme la formation de 25 000 jeunes pour un bien-être comportemental.
Ouattara Katolonian, directeur du service national des jeunes à l'Office du service civique national, était au micro de Aoussi Potin. Comme annoncé à l'entame de ce journal, le ministère des Transports a procédé hier mercredi 3 mai au lancement de la 4e édition de la Semaine nationale de sécurité routière à Abidjan au cours d'un point de presse. La particularité pour cette édition est qu'elle coïncide avec le début de la grande saison des pluies, d'où le renforcement des moyens de sensibilisation annoncé par Étienne Kouakou, conseiller technique du ministre au point de presse, comme nous le disions. Junior Cardin pour en savoir un peu plus.
La 4e édition de la Semaine nationale de sécurité routière se tient du 3 au 10 mai 2023. Et l'information a été donnée par Étienne Kouakou, conseiller technique du ministre des Transports en charge des actions de la sécurité routière, au point de presse de lancement.
Pendant cette période, des postes de sensibilisation seront tenus dans les principales villes du pays et sur les axes accidentogènes identifiés, notamment les axes Abidjan à Boisson-Noé, Abidjan à Bangourou, Abidjan à Yamoussoukro-Wangoulo et Yamoussoukro Boifflé d'Aloa.
Les actions de sensibilisation et de répression seront axées sur les infractions récurrentes constatées lors des éditions précédentes.
Il s'agit notamment de l'excès de vitesse, de l'usage des téléphones en situation de conduite, du défaut d'éclairage du véhicule, du non-port de la ceinture de sécurité, de la conduite en état d'ivresse, de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie des véhicules automobiles dans certaines localités. Évidemment, des pneus qui sont quelquefois défectueux.
La particularité de cette édition est qu'elle intervient au moment où débute la grande saison des pluies. Étienne Kouakou.
Aussi, outre les points d'intérêt que je viens d'énumérer, un accent sera mis sur les dispositions particulières à observer lors de la conduite par temps des pluies. Ça va concerner le dispositif d'éclairage, les essuie-glaces, les pneumatiques, la vitesse à adapter et évidemment les distances de sécurité.
Pour cette 4e édition, à côté des postes de sensibilisation dans les différentes villes, deux équipes du ministère se déploieront en renfort dans les régions du Sud-Comoué et de l'Indigné-Guablin.
présent à Yamoussoukro en vue de l'adoption par le Sénat de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est prononcé sur la grève entamée le mardi 2 mai par la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Pour le ministre, la FESI n'a pas besoin de cette cessation vu que les différents points de revendication énumérés pouvaient être discutés dans un cadre formel de dialogue. Adama Diawara est au micro d'Emiliao.
Les points de revendication de la FESI, il y en a 9. Je signale que parmi les 9 points de revendication, il y en a qui, à la limite, pour moi, n'auraient pas dû être considérés comme des points de revendication. Je prends par exemple le problème de la réhabilitation des universités et des cités universitaires et restaurants universitaires. Bon, ça, ça n'aurait pas dû être l'objet d'une revendication pour la simple raison que c'est le gouvernement lui-même qui a entrepris de réhabiliter les anciennes universités publiques et les anciens cours, c'est-à-dire les anciennes cités universitaires et les anciens restaurants universitaires. Et je peux vous garantir que le chef de l'État m'a même permis d'utiliser un fonds existant pour procéder à ces travaux-là. Et actuellement, le BNET est à pied d'œuvre pour nous sortir une étude technique avant qu'on choisisse l'entreprise qui va procéder aux travaux de réhabilitation. Donc vous voyez que la FESI n'avait pas besoin de mettre ça comme un point de revendication. De la même façon, vous avez d'autres points de revendication. Je prendrai par exemple ce qu'ils appellent le dysfonctionnement dans le processus d'inscription sur la plateforme numérique du ministère. Là également, je pense qu'il suffisait que la FESI et les autres organisations étudiantiles viennent dans ce que j'ai mis en place, à savoir le comité de dialogue permanent. Et en ce moment, ces problèmes-là, on les aurait solutionnés ensemble, dans la mesure où en fait il s'agit de cas de réclamation posée par les étudiants sur d'éventuels erreurs sur leur profil. Et en ce moment, les scolarités centrales des universités doivent de façon assez rapide répondre à ces préoccupations, gérer ces réclamations et de telle sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Donc vraiment, la FESI n'avait pas besoin de lancer un mot d'ordre de grève pour cela. Tout cela s'est discuté calmement dans le comité de dialogue permanent et c'est tout.
Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En page internationale, au Rwanda, de violentes pluies dans la nuit du mardi à hier mercredi 3 mai ont causé la mort de 127 personnes dans des provinces du sud, de l'ouest et du nord du pays. Selon un bilan provisoire des autorités, 60 morts liées à des intempéries avaient déjà été enregistrées entre janvier et avril par les autorités, mais selon les médias locaux. Cet épisode est le plus meurtrier rapporté récemment. À la veille des inondations, l'agence météorologique rwandaise avait lancé un avertissement sur l'importance des pluies saisonnières du mois de mai. Elle pointait particulièrement le nord-ouest du pays. Mais les habitants de la zone ne s'attendaient pas à être surpris dans leur sommeil par de telles précipitations, annoncent les autorités, soulignant que les inondations et glissements de terrain en période de saison des pluies sont courants au Rwanda. C'est à présent l'heure de la revue des titres des journaux ivoiriens. Pour ce, Jean-Claude Comé nous a rejoint dans cette édition. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Paul-Bénédicte Bolou. Bonjour à tous. L'actualité relayée ce jeudi 4 mai 2023 par la presse est en rapport avec les principales décisions du Conseil des ministres d'IM et Crédit et de la célébration dans la même journée d'hier de la Journée mondiale de la liberté de la presse, mais aussi de l'actualité politique avec en point de mire les élections locales du 2 septembre prochain. C'est le premier sujet matin retient, entre autres décisions du Conseil des ministres, la validation par le gouvernement de 2400 noms de nationaux pour la dénomination des voies publiques dans le district d'Abidjan, aussi de l'adoption d'un projet d'ordonnance portant financement des partis et groupes parlementaires au Sénat. Le Patriote, par rapport à cette dernière information, affiche en titre « Sénat, les groupes parlementaires recevront leur financement ». L'expression commentant cette décision se réjouit de ce que le président Ouattara tienne sa promesse. Le matin qui elle est lui aussi cette information de subvention prochaine des groupes parlementaires rapporte qu'une importante usine de production d'eau s'installe dans la région de la Mée. Le Rassemblement note pour sa part que le gouvernement a aussi adopté les conclusions des États généraux de l'éducation nationale quand le mandat informe de ce que de nouvelles lois sont en préparation en ce qui concerne le foncier rural. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'événement c'était hier et Soir Info rapporte que les pouvoirs publics ont été invités à assurer la viabilité des médias en Côte d'Ivoire. Le Temps note que le gouvernement est invité à sauver la presse. L'Inter signale que par rapport à la liberté de la presse, l'UNGCI annonce une grande tournée d'information et de sensibilisation
Le sursaut fait remarquer est que la Côte d'Ivoire passe de la 37e à la 54e place pour ce classement 2023. En ce qui concerne donc Reporters sans frontières, qui parle de la liberté de la presse dans le monde, le quotidien d'Abidjan pointe le recul de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire avec ce classement. Ce journal, tout comme Le Nouveau Réveil, s'intéresse au plan politique aux prochaines élections locales. Le Nouveau Réveil, par exemple, s'intéresse aux différentes forces politiques en présence et note qu'il y a 100 candidats pour les régionales et 687 pour les municipales, tous partis politiques confondus. De ces élections locales, Le Matin, Le Patriote en parle pour dire qu'au RHDP, les responsables s'opposent aux candidatures indépendantes. Candidature indépendante, ça suffit. Ouattara ne tolérera pas aucune candidature indépendante. Ce sont les titres qu'on peut lire en une de ses confrères. Merci à vos journaux.
Merci à Jean-Claude Gourmet qui sera des nôtres dans l'édition de 8h pour le second passage de cette revue des titres de vos journaux sur Radio de la Paix. L'invité de la rédaction de ce jour est docteur Amouzou Landry, assistant en droit à l'université Pelleforo Gonclibali de Korogo. Dans cet entretien, l'invité de la rédaction se prononce sur la loi qui n'empêche pas d'être en même temps maire et ministre-gouverneur, tout en clarifiant les rôles de ses autorités. Docteur Amouzou Landry répond aux questions de Francis Cassi.
Docteur Landry Amoussou, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, un gouverneur qui est un poste nominatif, peut-il briguer un poste électif comme celui de député, maire ou de président de conseil régional?
Le nouveau code électoral de 2020 ne fait pas obstacle à ce qu'un gouverneur puisse briguer le poste de député ou de maire.
Est-ce qu'il ne peut pas avoir conflit d'intérêts si lui il est maire et puis en même temps gouverneur du district?
Non, la mairie c'est carrément différent avec son poste de gouverneur. Puisque dans la mairie, il aura affaire à des conseillers municipaux qui vont provenir des différents quartiers de cette commune. Ça n'a absolument rien à voir avec son cabinet qu'il dirige déjà en tant que gouverneur du district.
Ce que je veux dire, quand on prend par exemple un district comme celui d'Abidjan, le district d'Abidjan englobe des communes, non?
Bien sûr.
Donc, si le gouverneur de ce district lui-même devient maire, est-ce que quelque part il n'aura pas conflit d'intérêt?
Oui, attention, le mot conflit d'intérêt ici peut prêter à confusion. C'est-à-dire, le code électoral, effectivement, ne fait pas mention qu'il y a une incompatibilité entre les deux fonctions. Voilà. C'est déjà le premier élément de réponse. N'oubliez pas aussi que le gouverneur est également député. Les députés, n'oubliez pas, ont pour mission également de voter le budget.
Quelles sont les relations entre un district et une mairie? Parce qu'on a vu souvent des bisbilles entre des maires et des gouverneurs.
Oui, parce que ces deux autorités-là interviennent dans le cadre de la décentralisation. Donc effectivement, quand il n'y a pas une séparation nette de leurs compétences, il risque d'avoir des chevauchements. Les ministres-gouverneurs, je pense qu'on leur a donné dans la vaste gamme de la décentralisation deux ou trois compétences. Ils doivent renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, ils doivent assurer le suivi et la bonne exécution des programmes et des projets. Voilà.
Donnez-nous un exemple où il peut avoir, je vais dire bisbille, entre un maire et un gouverneur du district.
Par exemple, le gouverneur n'est pas autorité de police. Il n'a pas vocation à assurer le maintien d'ordre dans la commune. Non. Tout ce qui concerne la salubrité, la tranquillité, échappe au champ du gouverneur. Ils sont de la compétence, effectivement, des maires.
Mais à quel moment un gouverneur intervient dans une commune?
En réalité, le champ est extrêmement limité. Parce que, fondamentalement, on apprend qu'ils ont plus ou moins trois zones de prédilection. Toujours dans la dynamique de développement, ils vont assurer une mission de suivi, de coordination, de supervision des projets, des programmes qui vont être peut-être adoubés à certaines communes. L'idée, c'est de savoir maintenant quels sont les programmes qui vont être agencés dans ces différentes collectivités territoriales. Donc, c'est à eux de communiquer sur les programmes qu'ils veulent exécuter dans ces différentes collectivités, puisqu'ils doivent assurer le suivi et l'exécution des programmes. De quel programme il s'agit?
Alors, vous dites que le champ d'action des gouverneurs est limité. Mais quelle est l'échelle de hiérarchie entre un gouverneur et un maire? Qui est au-dessus de qui? Qui est au-dessus de qui?
Alors, attention, il n'y a pas de hiérarchie parce que c'est des autorités, comme on le dit, autonomes. Ce mot autonome est intéressant. Ils interviennent de façon autonome dans certains aspects. Voilà. Le maire, on connaît déjà ses supérieurs hiérarchiques. C'est le préfet, le sous-préfet et le ministre de l'Intérieur quand il agit en tant qu'agent de l'État. Mais le ministre gouverneur, le décret de nomination est clair. Ils vont assurer le suivi et la bonne exécution des programmes et des projets. Donc, ils ne sont pas dans une dynamique de supériorité ou bien de tutelle.
Tout à l'heure, vous avez dit ministre gouverneur. Allez, vous savez, quand on entend ministre gouverneur, ça fait grand, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Donc, ça veut dire qu'ils sont au-dessus des maires.
Pas du tout.
Mais puisqu'ils ont le vocable ministre gouverneur.
Bon, généralement, il faut qu'on fasse attention aussi au vocable, il faut voir le contenu. Que dit la loi? Une fois, je taquinais un ami, je dis, lorsqu'on regarde les textes, mieux vaut être ministre que vice-président hein, de la République, n'oubliez pas. Voilà. Parce qu'il faut faire attention aux mots, il faut voir le contenu. Il y a des postes, en réalité, ils n'ont pas suffisamment de pouvoir. Moi, je préfère encore être maire que ministre-gouverneur. Parce que quand je prends les textes, le maire a énormément de pouvoir, le conseil municipal a énormément de pouvoir. Les ministres-gouverneurs, on dit, ils rentrent dans le cadre d'une mise en œuvre de la politique de décentralisation.
Mais le ministre-gouverneur a un champ géographique beaucoup plus vaste, non?
Beaucoup plus vaste, c'est vrai, mais tant qu'il n'y a pas de projet et tant qu'il n'y a pas de programme, on pourrait dire qu'il a les bras croisés.
Ah bon?
Bien sûr, parce que ces autorités sont dotées, effectivement, de pouvoirs, je dirais, limités. Ils rentrent dans le cadre d'une mise en œuvre. Là, si on n'est pas dans le domaine du droit, on aurait pu se demander est-ce que c'était nécessaire de créer encore d'autres autorités, alors qu'il y en avait d'autres encore qui ne sont pas finalement dotées de pouvoirs et de moyens. Bon, ça, c'est les politiques qui vont donner les explications, mais nous, les juristes, lorsqu'on regarde les textes, lorsqu'on regarde les pouvoirs qu'ils ont, lorsqu'on regarde le champ d'application, il leur faut encore, effectivement, énormément de moyens, lorsqu'on va avoir les programmes pour lesquels ils sont nommés. Pour l'heure, c'est des mots, c'est des noms. On attend de voir effectivement le contenu de tout ça. Lorsqu'on regarde les textes, je l'ai dit encore, moi si on m'avait proposé, je pouvais être maire que ministre-gouverneur.
Selon vous, le budget des maires vient beaucoup plus des mairies elles-mêmes par rapport à leur capacité économique et puis bon, l'État
bien,
vient un
bien,
peu
bien
en appoint. Mais et les ministres-gouverneurs?
On peut déjà penser que c'est l'État effectivement qui a mis à leur disposition cette étude de ressources. Maintenant, où on va les piocher? Là, j'avoue qu'on peut toujours subodorer qu'il s'agit peut-être d'une contribution de ces collectivités locales.
Docteur Landry Amoussou, je vous remercie.
Merci beaucoup, je vous prie.
Docteur Amoussou Landry, assistant en droit à l'université Péléforo Gonclibali de Korogo, invité de la rédaction, répondait à Francis Cassier. Cet entretien marque la fin de ce journal. Le rappel de l'essentiel. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été décaissés pour l'exécution des projets du contrat de désendettement et de développement durant ces deux dernières années. L'information émane du Conseil des ministres tenu hier mercredi 3 mai à Abidjan Plateau. La quatrième édition de la semaine de la sécurité routière qui est consacrée à la sensibilisation de proximité a été lancée hier mercredi 3 mai à Abidjan pour le ministère des Transports. Les actions de sensibilisation seront axées sur les infractions récurrentes. C'est ici que se referme le journal. Prochain point de l'actualité, 8h sur les antennes de Radio de la Paix. À l'instant, la présentation avec Aoussi Potin, voilà, dans les matins de la paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.
J'ai